rencontre avec Albert Fier. Il a 94 ans, il a été résistant. C'est au travers de ses dessins, après-guerre, qu'il a souhaité transmettre son quotidien ainsi que celui de ses camarades. Scène de vie, scène de résistance, c'est le livre qui vous est présenté à l'occasion de cette rencontre avec Albert Fier.
Il a raconté un petit peu des choses qu'il a vécues, mais il en a vécu beaucoup d'autres. Et alors, ce dont il n'a pas parlé, c'est après, lorsqu'il a été à la retraite, comme il avait des talents de dessinateur et qu'une partie de sa carrière professionnelle avait été quand même dans ce secteur de la publicité, il s'est mis à dessiner tout ce qu'il vous a raconté, il le dessine. Et quand on a découvert ses classeurs chez lui, c'était en 2002 ou quelque chose comme ça, hein. Bon, on a utilisé ça dans le DVD-ROM, on a fait une exposition sur le musée virtuel, et puis on se disait, c'est quand même dommage que tous ces dessins restent dans sa maison à Créteil et que les autres n'en profitent pas. Alors on en a parlé d'abord, voir s'il accepterait qu'on les publie. On l'a proposé à Mémoire de la Drôme, qui a vu, au vu des dessins, s'est dit... Il y a quelque chose à faire avec ça. Et alors, la difficulté, ça a été qu'on avait une pagination limitée, 160 pages, et on a choisi 130 dessins, mais sur les 245 qu'il avait. Donc, ça a été un travail difficile de choisir ceux qu'on abandonnait et ceux qu'on mettait là-dedans. Alors, l'autre jour, je crois que c'est ici, quelqu'un nous disait « il faut préparer le tome 2 ».
Alors, c'est un ouvrage très particulier. C'est un ouvrage de forme, pour la forme, et un ouvrage de fond. Alors, c'est vrai que la première approche, bon, on regarde les images, on passe d'une image à l'autre, mais ce n'est pas suffisant. Il faut regarder aussi, parce que Albert Fier est quelqu'un de très... sarcastique, très caustique, et c'est lui qui a fait les légendes qui sont en bas. Et puis même ces images sont à lire à plusieurs niveaux. Alors bon, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai été prof d'histoire juive, d'étain, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et je sais que si j'étais encore en activité, ce seraient des études de documents vraiment typiques, très caractéristiques.
Vous écoutez Radio Royan, une émission spéciale au cœur de la Résistance. C'était le 24 juillet, à Vassieu-en-Vercors, au Musée de la Résistance.
J'ai quand même rendu quelque chose, hein. Quand on s'est trouvé la retraite, parce que, comme on était comme tout le monde, on a fait la retraite, alors on s'est retrouvé quand même, parce qu'on était nombreux à l'époque, hein, encore vivants. Et on s'est tout groupé, c'était un peu l'aventure de notre vie, ça. Alors, on s'est mis à en parler, puis les copains écrits, puis on a trouvé des lettres, et puis ceci, et puis cela. Et puis on a commencé à mettre un petit peu des souvenirs, des monuments, là, tu te rappelles. Bon, alors, c'est pour ça que vous voyez, on a reparlé de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une recrudescence, il y a eu des musées, il y a eu des livres, etc., qui sont parus. Voilà la raison pour laquelle... Il y a eu une reconnaissance de ses souvenirs. D'abord, c'était la France, c'est une affaire entendue. Et puis, il y a eu quand même, sans faire de politique, il y a eu quand même un type qui avait marqué De Gaulle qui est venu au pouvoir. Et puis, les gens, on en parlait à leurs enfants, etc. Mais ça commence à retomber maintenant, vous savez, parce que les enfants, on les fatigue un peu avec nos histoires. Ils n'ont plus... Oui, ils ne vivent pas le même truc, c'est fini maintenant. Nous, on s'est débrouillé un peu tout seul parce que c'était pas marrant. Vous avez des J3, les fameux J3, les jeunes, on est allés en forêt, on s'est planqué dans les maquis, on est allés travailler dans le bois, on a fait ce qu'on a pu, c'était pas toujours drôle. Mais il y a quand même des Français qui ont vécu, qui ont vécu normalement. Et puis il faut bien vous dire une chose, c'est que tout ça, c'est pas venu par le ciel. En 40, quand Il faut reconnaître qu'en 40, quand on a demandé l'armistice, c'était pas beau la France, vous savez. Il y avait des gens sur toutes les routes. Et le pauvre type qui avait dans une valise, qui partait avec une valise, qui a laissé sa maison, ses affaires, tous ses souvenirs, et qui s'est trouvé sur la route avec les avions qui Stuka qui les bombardaient, vous savez, ils ont poussé un soupir, ce genre-là. Parce qu'il y avait enfin l'armistice. Ça, c'était le tout de suite, ça, le casse-croûte. Et puis après, il y a eu toute la suite, évidemment. On était quand même occupés, on était vaincus. Et puis, je ne voulais pas faire de politique, mais on avait un gouvernement. Il a peut-être fait ce qu'il a pu, j'en sais rien, pour entrer dans la politique, mais qui était assujetti au gouvernement allemand, qui, Dieu sait, nous, on était une démocratie, eux n'étaient pas une démocratie, bien loin de là. Alors, on a subi. Et puis, il y a eu aussi des coups durs, il y a eu Merses-Kébir. Merses-Kébir, ça a été quelque chose d'épouvantable. Moi, j'étais président des anciens combattants, c'est pas encore passé. Les marins l'ont encore là. Et puis, il y a eu des tas de choses, et puis la guerre, et puis voilà. Alors, les Français ont un petit peu ballotté, c'était difficile pour certains de choisir. Vous avez eu des maquis qui étaient 100%, qui étaient nés de gens qui étaient très patriotes, qu'on appelait à ce moment-là, à droite, tout ce que vous voulez, peu importe, mais qui étaient très patriotes, et puis d'autres qui ont adhéré du côté des Allemands. Il y a eu à ce moment-là, il y a eu un choix qui était très difficile, mais à l'arrivée, il y en avait beaucoup moins, parce qu'on nous parle beaucoup de résistance, mais je vous dis quand même, on peut remercier, c'est une façon de remercier un peu tous les camarades qui sont tombés. Il y en avait moins que ce qu'on dit. Parce que maintenant, tout le monde vous dit, ah oui, mon pépé, mon pote, ma tata, j'étais la raison. Permettez-moi d'être sceptique, il n'y en avait pas tant que ce qu'on voulait dire, quand même. Hein. Alors j'irai un dernier mot, parce que c'est pour vous dire comme tout ça a été très difficile. Quand on est arrivé à Valence, quand on a pris l'hôtel de Lyon, on était très étonnés, parce que nous, on était en savate, en vieille godasse, en civil, moitié militaire. Et on est arrivé dans l'hôtel de la Croix d'Or à Valence, puis là, on a vu des types superbes en uniforme. Alors, ça s'appelait... C'est pour ça que vous avez tous entendu parler... Je veux quand même le dire, ça. Vous avez entendu parler des Neftalinards. Pourquoi les Neftalinards? Ben, les Neftalinards, si, monsieur. C'est les gens qui sentaient la neftaline.
Oui,
et pourquoi sentaient-ils la neftaline? Parce que leur costume, pendant qu'on faisait les andouilles, qu'on était quelque part, qu'on se battait, eux, c'était dans leur penderie. Alors quand vous sortez un vêtement de la penderie, ils sentent la neftaline. Et alors on était tout étonnés. Ah, les neftalinards. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Mais il y en avait, vous savez, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. On se comptait plus à côté d'eux. Alors, bien sûr, après, ça a été un engouement, tout ça est parti. Tout ça est pardonné, on n'en parle plus, on ne va pas faire la différence. Mais encore, moi, au souvenir de mes camarades qui sont morts, je suis obligé de dire quand même que tout le monde n'était pas dans la résistance.
Oui, mais tout à l'heure, il a dit autre chose. Alors, il a dit que la résistance n'aurait pas pu réussir s'il n'y avait pas eu l'aide des paysans.
Ah, ça, c'est vrai.
Et c'était une autre forme de résistance. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas une mitraillette dans les mains qu'on ne
participait
pas.
Hein? Ah oui.
Et les femmes aussi qui ont été
des
femmes de liaison, des agents de liaison, ou qui faisaient marcher l'affaire, agents de liaison, qui cachaient des jeunes qui voulaient rejoindre le maquis, qui servaient de boîte aux lettres, c'est aussi une forme de résistance. C'est pas seulement avec une mitraillette dans les doigts, quoi.
Et puis la vie s'était établie, par exemple, là, vous avez un dessin où on voit les gars qui, le lundi matin, ils sont à Cré, ils montent dans le camion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on avait des permissions. Il y avait un gars, les gars, ils allaient voir leur femme, ils allaient voir leur ferme. Souvent, leur ferme d'abord, leur femme et puis les gosses. C'est tout marché. Et ils remontaient le lundi matin, ils descendaient le dimanche.
Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il s'est marié en 43.
Je n'ai jamais regretté.
Donc il a bien eu une permission pour aller se marier.
Oui, il avait une permission. On était, parce qu'à partir du mois de juin, toute la résistance armée a été régie de la façon des militaires. On était l'armée secrète, mais on était en bataillon, etc. Ça s'est passé aux environs du 15 juin, après le soulèvement des villes, comme il a pu y avoir à Cré, à Valence, etc. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Hein.
Voilà, et le
ça,
mariage.
C'est quoi ça?
Le mariage de la copine.
Et ça, il faut le dire. Ah ben, j'ai insisté pour vous dire à ce moment-là, parce que Adi, ça a été la première république. Adi, j'ai mon copain. J'ai un couple d'amis, ils ont été nos témoins, et nous, on a été leurs témoins. Mais ça s'est passé à Adi, pas moi. Mais nous, on n'a même pas pu publier les bons. Mais Adi, c'est le premier mariage de la...
La quatrième
république. Et je peux vous dire qu'il avait déjà trois gosses quand il a été convoqué pour savoir s'il était bien marié. Marrant ça, parce que gentiment, on avait dit, enfin pas nous, mais les politiques ont dit, c'est la quatrième république, a dit. Bah, les Allemands, ils n'ont pas été d'accord.
Dans le Vercors aussi, d'ailleurs, hein, même le 3 juillet, oui, si je me souviens bien.
Ni le gouvernement, ni les Allemands étaient d'accord. Alors après, ils sont venus combattre la quatrième république.
Voilà le lundi, le retour. Tout y est, hein, voilà la scène de vie, voilà le retour, on remonte au...
Alors c'est très marrant, les gars qui descendaient, c'était pas la ville une semaine, ils n'avaient pas changé de linge une semaine, alors ils arrivaient dégueulasses chez eux, et remontaient astiqués, rasés et tout, c'était vraiment... le moral, bien sûr, ils avaient vu Nana, c'était formidable. Mais ça compte aussi, cette vie. Et puis, les retours de patrouille, où les gars buvaient beaucoup. On était entre copains, comme les gens. Il n'y a que les gens qui ont fait l'armée qui peuvent savoir comment ça se passe. On oublie un peu la chose, on vit dans un autre monde. Voilà, alors c'était aussi ça, la résistance. Et puis là, je vais terminer en vous disant, comme c'était drôle, vous voyez, comme c'était difficile, j'ai un de, peut-être mon meilleur copain. Il a fini dans les Waffen-SS. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait une famille, il était... d'une famille bourgeoise, très, très, très patriote, qui a accepté la guerre de 39-40, en français, vraiment patriote. Et puis, il y a un problème qui a tout faussé, Pétain est arrivé, et ils ont suivi, naturellement, l'embauche dans les anciens combattants. Les anciens combattants, et les serviteurs légionnaires, et puis le serviteur légionnaire est né la Légion, la milice. Et puis la milice, bien sûr, quand il y a des gars qui sont allés plus loin. Et mon copain, il a fini dans les Waffen-SS, avec la prison qu'a suivi, etc. Mais peu importe, et vous voyez comme c'était... J'en ai un autre qui est devenu colonel dans les méharistes, qui a fait la guerre d'Algérie, qui a fait la guerre d'Algérie. Et moi, j'étais en civil. Alors, vous voyez comme c'était difficile. Il y avait un choix qui était difficile, et puis, si on a un père juif, vous êtes juif. Si on a un père musulman, vous êtes musulman. Si vous avez un père catholique, vous êtes catholique. C'est familial, ça. Alors, il y a eu beaucoup de jeunes de notre âge qui étaient aussi héritiers de ce qu'avait été leur famille. Alors, il y avait un choix, quand même, au départ, très difficile, qui s'est atténué petit à petit, vu les lois qu'ont pondu le gouvernement, la naissance de la milice, la naissance de ceci, alors finalement la résistance est un peu étoffée quand même, puis il y a des choses qui ont été oubliées, la Mercedes-Kébir a été oubliée, puis surtout la défaite de l'Allemand a fait quelque chose. À partir de Stalingrad, tout le monde savait, mais en 40, même les gens bien placés pensaient, même l'Angleterre allait faire un traité. Alors à ce moment-là, l'esprit était plus le même, mais après ça, les grands, tout le monde savait que c'était terminé. Alors, naturellement, on va du côté le plus fort. En général, si on est faible, on va du côté le plus fort. Alors, ça s'est quand même étoffé. Et puis, il y a eu une organisation qui s'est montée. Il y a eu des Anglais ont fait beaucoup de choses sur le plan, parce qu'il y avait aussi dans la résistance différents groupes. Il y avait l'AS, les Français libres, il y avait les réseaux anglais, il y avait les réseaux américains, etc. Alors, tout ça travaillait pour le même but, mais il y avait n'était pas toujours des connexions qui marchaient très bien. Alors voilà, c'était ça la résistance. Des pour, des contre, des bons moments, des mauvais moments, et puis beaucoup de copains qui sont morts à 20 ans, 18 ans. Moi j'en ai un qui est mort à 17 ans, ben oui.
Et tout ça est évoqué par des dessins.
Ouais, voilà.
C'est façon originale quand même de raconter la résistance. Hein.
Tout ce qu'il vient de vous raconter, voilà. Vous l'avez là-dessus.
Et on s'est regroupé beaucoup, alors à la retraite, À la retraite, on se repose, en principe, quoi. On a commencé à parler de ceci, à parler de cela, et puis finalement, je vous dis, ça a été notre aventure, comme l'aventure de notre père. Quelle triste aventure, mais enfin, ça a été la guerre de 14-18. Espérons que votre aventure à vous, ça sera pas la même chose. Je vous l'espère en fleurs.
Merci.
Voilà, je vous remercie.